C'est-à-dire que la sexualité est obligatoire.
Cosmoramar.
La sexualité semble être survenue tôt dans l'évolution. Elle représente d'abord une sorte d'auxiliaire de la reproduction, un superflu, et elle oblige une bactérie à l'exercice de la sexualité pour se multiplier. C'est la nécessité de recourir au sexe pour se reproduire qui transforme radicalement le système génétique et les possibilités de variation.
Cosmoramar. Une fois passée la peur. Une fois gagné ton cœur. Une fois purée ta sœur. Deux fois changer d'humeur. Trois fois pointé vainqueur. Et sans flotteur. Parfois en globe-trotteur. Parfois sur le scooter. jamais en basketteur. Ou bien, ça dépend de la hauteur. Le rameur.
Dès lors que la sexualité est obligatoire, chaque programme génétique est formé non plus par copie exacte d'un seul programme, mais par réassortiment de deux différents. Un programme génétique n'est plus alors la propriété exclusive d'une lignée. Il appartient à la collectivité, à l'ensemble des individus qui communiquent entre eux par le moyen du sexe. Ainsi se constitue une sorte de fond génétique commun où, à chaque génération, est puisé de quoi faire de nouveaux programmes. C'est alors ce fond commun, cette population unie par la sexualité, qui constitue l'unité d'évolution. à l'identité qui commande la reproduction stricte du programme. La sexualité oppose la diversité qui apporte un réassortiment des programmes à chaque génération. Diversité si grande qu'à la seule exception des vrais jumeaux, aucun individu n'est exactement identique à son frère. La sexualité oblige les programmes à parcourir les possibilités de les combinatoires génétiques. Elle contraint donc au changement. Elle contraint donc au changement.
Bigger the lie, the more they believe. You see now, I'm here to tell you, this remaining savage shit ain't nothing like they make it up to be. You up in here all tight with it, waiting for your pay lawyer, thinking you all wise, don't you? Nah, Pussy. That work with some kind of criminal mastermind. When you ain't been seen running from the deed, and your own fucking running partner ain't in the next room. Yeah. Oh, yeah. He's telling it like a little bitch. We even went to Mickey D's for him because he was so motherfucking helpful. 2 quarter pounders, big fries, Mountain Land cookies, Dr. Pepper. That's how your boy rolled, right?
All right, step out.
Where we going?
Break room. So you can enjoy that, huh?
All right. I still ain't saying shit to you, huh?
Yeah.
Marla, what the fuck?
How many years you think we've been doing the same shit?
20 at least.
True. False. Load them up.
So this shit actually works, huh?
Hell yeah. Americans are stupid people by and large. They pretty much believe whatever we're told.
Thank you.
afin d'essayer de réécrire une quantité de lambeaux, de parcelles, de fragments dont j'étais vraiment lasse de la dispersion. On eût dit un puzzle, comme celui que j'avais acheté de 500 pièces en septembre et qui achevé montrerait agrandi une image d'un album de Tintin. On eût dit un puzzle dont toutes les pièces étaient dispersées, or elles étaient très petites, il y en avait au moins 1000, et j'avais pensé qu'en relisant et en lisant de nouveaux livres de Villamatas, j'avais pensé quand un jour soudainement Villamatas m'était revenu à l'esprit que grâce à lui, c'est-à-dire à ses livres, les pièces de mon puzzle pourraient se recoller, se trouver, s'adapter, se rencontrer.
Pour ce recollage, je n'aurais pas pu utiliser Thomas Bernhard. Ni Arno Schmitt, par exemple. Il me fallait quelqu'un de plus contemporain, de très contemporain, et surtout, il me fallait un écrivain vivant. Or, parmi les écrivains vivants, à la course de fond, Villamatas avait fini par dépasser Anke. Non pas que mon amour pour Anke ait faibli, mais ses derniers livres, alors que j'étais fatiguée, n'avaient pas pu trouver leur chemin habituel en moi, alors que Villamatas, même quand il empilait 10 mises en abîme, trouvait toujours son chemin en moi. Et pourquoi ? Grâce à la joie. Il me faisait rire et me mettait dans une humeur excellente, lui dont l'humeur excellente le matin vire au noir dans le courant de l'après-midi et devient vraiment tourmenté une fois la nuit tombée, comme il le raconte dans Impression de Cassel, ne m'insufflait que de la joie, matin, midi et soir. Et surtout le soir, quand je me couchais une fois de plus avec tous mes lambeaux dispersés en moi, toutes ces pièces de puzzle s'emboîtant pas, et que j'ouvrais parfois à n'importe quelle page l'un de ces livres, la joie revenait aussitôt, les fragments se recollaient. Parfois, l'intensité d'attention que suppose sa lecture me fatiguait un peu passé minuit, et je finissais par déposer le livre ouvert sous le lit, éteindre ma lampe et me retourner sur mon oreiller, mais souriante, et avec l'impression que peut-être pour moi, tout n'était pas perdu. Je l'avais vu une fois, à Paris, lors d'une rencontre organisée par la Maison des écrivains et de la littérature à la Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain. Je l'avais souvent vu en photo aussi. Mais bien sûr, à la Maison de l'Amérique latine, ce n'était pas du tout lui. Cet homme n'avait rien à voir avec son œuvre, comme tout homme n'a rien à voir avec son œuvre. Je me disais que si Kafka ou Walser, les malheureux, avaient dû paraître ainsi sur une estrade avec leur nom affiché devant eux, Robert Kafka ou Franz Walser, et se lancer dans un discours, nous ne serions probablement plus rien de Walser ni de Kafka aujourd'hui, et la moitié de la Terre resterait dans l'obscurité. Villamatas n'avait strictement rien de Villamatas. Ce que j'avais supputé avant de me rendre à la Maison de l'Amérique latine et de m'asseoir dans le public, mais je voulais tout de même m'en assurer. La directrice de la Maison des écrivains et de la littérature m'avait invité à me joindre à eux tous, donc à Villamatas, pour le dîner qui suivrait la causerie. Mais j'avais décliné aussitôt. Je ne voulais pas rencontrer Villamatas, je voulais le lire. Je ne voulais pas parler avec lui, absolument pas rencontrer ses yeux. Je voulais entrer dans ses histoires et vivre avec ses histoires le temps de mes lectures et un peu plus. Par exemple, quand je me réveillais le matin et glissais chez moi, l'air somnambulique, quand je prenais mon bain après avoir refermé un de ses livres, quand je prenais la rue Notre-Dame-des-Champs ou traversais le jardin du Luxembourg l'après-midi, sans but précis, juste pour prendre l'air. Quand une pensée, une obsession momentanée me taraudait et me faisait du mal, si alors je pensais Villamatas, une cité d'or s'installait en moi. Non pas que Villamatas soit aussi parfait que Walser ou Kafka, non, et cela, il le sait bien, il le sait parfaitement, mais il est parmi les écrivains le mieux que l'on puisse être aujourd'hui, car aujourd'hui, nul ne peut plus être Walser ou Kafka, c'est impossible, la sainteté en art nous est refusée, c'est comme une condamnation, nous avons été chassés du paradis. So
Sèche et poussiéreuse, et la fièvre du crépuscule. Enfin, l'aube silencieuse, mais guère plus fraîche. La nuit d'été, n'est-ce pas ? En pleine campagne. Et l'homme au seuil de la vieillesse, qui, protégé de l'extérieur par les murs blancs, par la toile métallique de la moustiquaire, lit, en écrivant de temps en temps des notes rapides, pleines d'abréviations, sur un carnet. Il a passé la journée à aller et venir dans la maison, évitant les espaces trop ensoleillés du potager et du jardin. Seul depuis que sa fille a épousé un médecin et s'en est allé vivre en ville, n'est-ce pas ? Il s'est séparé de sa deuxième femme il y a 10 ans, à peu près, n'est-ce pas ? Habitué déjà à la vie et à la mort, à cause de ses 64 ans, ayant derrière lui des périodes d'impuissance, de torpeur et de folie, mais possédant encore assez de force pour regarder, serein, le soir d'été à l'ombre des paradis, et pour travailler jusqu'à l'aube, une fois la nuit venue. Et son récit est à peu près ceci.
Et là, je me souviens bien de cette impression que j'avais d'avoir tous les éléments d'un livre, mais de les avoir en morceaux, de les avoir en petits morceaux, presque comme ceux d'une mosaïque, et dispersés. Et c'était assez troublant et assez inquiétant, même par moments, de savoir que le livre, avant de l'écrire, de savoir que le livre était là, mais en pièces détachées. Donc je savais que parfois quand on lit une œuvre qu'on aime passionnément, ces morceaux dispersés de sa propre œuvre, miraculeusement, un peu magiquement, comme dans un tour de prestidigitation, se mettent à se recoller, à se rassembler, et tout d'un coup à former cette image qui vous manque tellement quand on n'écrit pas. Cette image que va devenir votre livre.